Alors j'en viens maintenant au sujet du cercle Léon Trotsky de ce soir. Chômage de masse dans les pays développés, destruction méthodique des lois sociales, exploitation féroce de centaines de millions de travailleurs dans les pays dits émergents, financiarisation toujours plus grande de l'économie mondiale, augmentation des écarts de revenus et de richesses entre une poignée de milliardaires et le reste de l'humanité, destruction des ressources naturelles, du climat et menaces multiples sur la santé humaine. Tous ces ravages, bien réels de l'économie capitaliste en crise, sont attribués par divers courants politiques à ce qu'il est convenu de nommer la mondialisation. C'est l'un des terrains d'agitation de l'extrême droite qui rabâche que tous les problèmes viennent de l'Europe, du mondialisme et qu'il faut fermer les frontières. Mais c'est aussi celui d'une partie de la gauche, même si celle-ci prend en général le soin de rajouter l'adjectif capitaliste. C'est la mondialisation qu'elle combat. Le patriotisme économique et la démondialisation furent revendiqués par Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif au début du quinquennat de Hollande. Cette agitation de bateleurs de foire n'aura pas masqué longtemps l'impuissance et la servilité de Montebourg et de Hollande face à la volonté de PSA ou Mittal de fermer des usines. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, n'est pas en reste. Lui qui propose de remplacer l'idéologie du libre-échange par un protectionnisme solidaire. Au-delà de ces politiciens, les idées altermondialistes sont aussi à la base des raisonnements d'économistes qui se veulent progressistes. Elles influencent des militants politiques ou syndicaux qui se disent de gauche ou des jeunes révoltés qui cherchent à comprendre les ressorts de la société. Pour ces courants, les organismes supranationaux comme le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce ou pire encore à leurs yeux, l'Union européenne et la Banque centrale européenne sont les agents de la mondialisation. Ils regrettent que les États nationaux aient perdu tout ou partie de leur pouvoir au profit de ces organismes non élus et directement soumis à ce qu'ils appellent le lobbying des firmes multinationales, voire la dictature de l'oligarchie financière. Les traités instaurant des zones de libre-échange entre les États ou des groupes d'États, comme le TAFTA actuellement négocié entre les États-Unis et l'Union européenne, sont pour eux la quintessence de cette emprise des multinationales sur les États nationaux, désormais soumis et impuissants. Des économistes effrayés par la folie de leur système, comme Joseph Stiglitz ou Thomas Piketty, des syndicalistes en poste à l'Organisation internationale du travail, comme l'ex-secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, voudraient opposer une gouvernance mondiale à la gouvernance des marchés. Ils réclament une réforme des institutions internationales, de la Banque mondiale, du FMI ou de l'OMC. D'autres défendent la démondialisation et le retour à l'État-nation. Si le souverainisme a longtemps été, et reste encore, le marqueur d'une fraction de la droite et de l'extrême droite rejetant le mondialisme et le cosmopolitisme au nom de la patrie éternelle, sinon de la race, autrement dit, une perspective clairement réactionnaire, le souverainisme est aujourd'hui revendiqué par des courants ou des intellectuels qui se posent en adversaires de l'économie capitaliste. Ainsi, Frédéric Lordon, l'un des initiateurs de Nuit Debout, défend une vision de gauche de la souveraineté nationale, en précisant qu'il ne faut pas la laisser à l'extrême droite. C'est aussi la thèse d'Aurélien Bernier, journaliste au Monde diplomatique, qui explique dans un livre intitulé « La gauche radicale et ses tabous » que si le front de gauche perd des voix face au front national, c'est qu'il manque de clarté sur le libre-échange, l'Union européenne et la souveraineté nationale. En réalité, la frontière entre le souverainisme de gauche et le souverainisme de droite est si floue que certains, comme Jacques Sapir, l'ont franchie, passant du front de gauche à Debout la France. Le mouvement ouvrier naissant considérait que les intérêts des travailleurs allaient dans le sens de l'abolition des barrières nationales et du déploiement à l'échelle internationale des forces productives. Tout en dénonçant les ravages provoqués par la destruction des économies naturelles ou artisanales sous les coups de boutoir du capitalisme en pleine expansion, il avait décelé que ce développement, de toute façon inexorable, renforçait socialement le prolétariat, seule classe sociale en situation de mettre en place une forme de production et de répartition des richesses supérieure au capitalisme. Deux siècles plus tard, alors que le capitalisme est devenu sénile, alors que les partis socialistes, puis communistes, intégrés à la société bourgeoise, ont distillé le nationalisme et remplacé la lutte de classe par la défense des valeurs républicaines, le souverainisme et la démondialisation de l'économie passent désormais, aux yeux de bien des militants, des jeunes ou des travailleurs politisés, pour des notions progressistes. Eh bien, c'est un terrible recul. Quelles conclusions les marxismes ont-ils tirées de l'évolution du capitalisme ? En quoi les États nationaux, bien loin d'avoir perdu tout pouvoir, restent-ils des appareils qui défendent les intérêts de la bourgeoisie ? Pourquoi le souverainisme sur le terrain politique et la démondialisation sur celui de l'économie, même baptisés de gauche, sont des impasses réactionnaires ? Quelle alternative à la mondialisation de l'économie capitaliste ? Comment mettre les formidables forces productives disponibles au service de l'ensemble de l'humanité ? C'est à ces questions qu'est consacré l'exposé du Cercle Léon Trotsky de ce soir. Et sur ce sujet, je passe la parole à Xavier Lachaud.
Alors, quand un iPhone est assemblé par un ouvrier d'une des usines du Taïwanais Foxconn, installée en Chine, l'écran tactile et ses composantes sont fabriqués au Japon. Le processeur vient de Corée du Nord, l'appareil photo, le processeur et le récepteur GPS d'Allemagne, le Bluetooth des États-Unis. Il y a plus de 20 fournisseurs répartis sur 3 continents. Chaque élément est lui-même fabriqué avec des composantes extraites ou produites dans divers lieux de la planète, des mines de coltan du Congo jusqu'à l'acier russe. La fabrication de chaque iPhone résulte du travail combiné de dizaines de milliers d'ingénieurs, d'employés, d'ouvriers, dont certains, dans les mines ou sur les chaînes de montage, sont sous-payés, exploités 10 à 12 heures par jour, dans des conditions ignobles. Au total, la distance parcourue par l'ensemble des pièces d'un iPhone est de 800 000 km, 20 fois la circonférence de la Terre. À bien des égards, l'iPhone symbolise le meilleur et le pire du fonctionnement de l'économie capitaliste. Le pire, car conçu et produit pour rapporter le maximum de profit à la firme Apple, il résulte de l'exploitation du travail humain, du développement inégal, de pollution et de gâchis multiples. Mais le meilleur aussi, car l'iPhone est le produit du génie créatif humain, rendu possible par une division du travail international maximale, l'autre nom de la mondialisation. Cette division internationale du travail est aujourd'hui si poussée, l'entrelacement entre les multiples étapes de la production si serré, qu'aucun retour en arrière n'est possible, sans devoir se passer de la quasi-totalité des objets manufacturés que nous utilisons quotidiennement. Si la société est entraînée dans une impasse de plus en plus insoutenable et dangereuse, ce n'est pas à cause de la circulation incessante des hommes ou des produits. Ce n'est pas à cause de la mise en commun des cerveaux à l'échelle de la planète, mais parce que les formidables moyens de production que l'humanité a développés sont entièrement sous le contrôle des seuls capitalistes, maîtres de toute l'économie, et qui se livrent à une concurrence acharnée. Enlever ces moyens de production à la bourgeoisie, les mettre en commun pour les utiliser au service de toute la société, c'est la perspective que défendaient les premiers militants communistes, dont le programme fut génialement condensé dans le Manifeste communiste rédigé en 1847 par Marx et Engels. Le Manifeste constatait que le capitalisme, fruit d'une première phase de la mondialisation, l'accélérait formidablement en retour. Il constatait surtout que le capitalisme, en se développant, créait les bases économiques d'une société nouvelle, où les besoins de tous pourraient être satisfaits sans qu'une classe exploitée ne soit contrainte de produire toutes les richesses, dont seule une minorité de possédants peut jouir. On ne peut comprendre en quoi la démondialisation, le protectionnisme et le souverainisme sont des chimères réactionnaires sans revenir sur tout le développement historique du capitalisme. Depuis l'ouverture des voies maritimes atlantiques par les marchands européens à la fin du XVe siècle, le capitalisme n'a cessé de déborder son berceau d'origine, comme il n'a cessé de soumettre les contrées, les peuples, les sociétés qu'il trouvait sur son chemin. L'ouverture de nouvelles routes commerciales fut rapidement suivie du pillage de l'Amérique, des premières phases de colonisation avec l'installation de grandes plantations aux Caraïbes, puis en Amérique du Nord. L'exploitation du sucre et du coton entraîna la traite des Noirs, la généralisation du commerce triangulaire et la soumission des côtes africaines. Le commerce de l'or et des épices fit la fortune des marchands et des banquiers hollandais, qui installèrent des comptoirs tout autour du globe, soumirent les Indes dites orientales et initièrent le commerce avec le Japon et la Chine. Ils furent supplantés par les marchands britanniques, qui poursuivirent la mise en coupe réglée des Indes, de l'Afrique, de l'Asie. Ils s'installèrent sur les 5 continents, transformant les comptoirs maritimes en villes, conquérant sauvagement, mais toujours au nom de la civilisation et du christianisme, les arrière-pays pour en faire des colonies. Les Britanniques ruinèrent l'industrie textile indienne en exportant en Inde les cotonnades tissées industriellement dans les usines anglaises. Ils forcèrent les portes de la Chine avec leurs canonnières, l'obligeant à acheter l'opium qu'ils cultivaient en Inde en échange du thé ou de la soie. Entre-temps, les richesses accumulées en Europe du Nord par les premiers siècles de pillage, de commerce inégal, de trafic en tout genre et surtout d'exploitation du travail humain s'étaient transformées en capitaux qui cherchaient des débouchés. Quand l'invention de la machine à vapeur et des premières machines-outils révolutionna la production des marchandises, ces capitaux s'investirent en masse dans la nouvelle industrie. Celle-ci supplanta les vieilles manufactures, ruina les artisans et se mit à produire à si grande échelle que le marché local puis national fut rapidement trop étroit. Pour écouler sa production, la grande industrie avait besoin du marché mondial. En retour, le marché mondial accéléra le développement de la navigation, des voies de chemin de fer, fournissant de nouveaux clients et de nouveaux débouchés à l'industrie, décuplant les capitaux et renforçant sans cesse la bourgeoisie. La bourgeoisie a commencé par unifier en nations des contrées longtemps morcelées et isolées sous l'égide d'une multitude de féodaux. Elle a créé, au Royaume-Uni et en France d'abord, avec du retard en Allemagne, à une toute autre échelle aux États-Unis, un marché national unifié par des règles fiscales et des droits de douane communs, utilisant la même monnaie, les mêmes poids et mesures, le tout garanti par la force coercitive d'un État national. Mais ces marchés nationaux à peine achevés, pas encore consolidés, la bourgeoisie a eu besoin de l'arène du marché mondial pour prélever ses premières matières premières, vendre ses marchandises, investir ses capitaux, doubler ses concurrents. Le niveau atteint par les forces productives, c'est-à-dire la puissance et la productivité des machines, la parcellisation des processus de production, les multiples origines des matières premières ou des produits semi-finis intermédiaires, l'ensemble des moyens de communication et de transport pour relier ces éléments rendaient impossible tout retour vers l'isolement et le particularisme. C'est ce que constataient Marx et Engels. Je cite « Poussé par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. » Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. Ils ajoutaient, au grand désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. À la place des anciens besoins satisfaits par les produits nationaux, naissent des besoins nouveaux, réclamant pour leur satisfaction les produits des contrées et des climats les plus lointains. À la place de l'ancien isolement des provinces et des nations, se suffisant à elle-même, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. Ces lignes du manifeste, écrites en 1847, donc étaient largement une anticipation. Mais une vingtaine d'années plus tard, la mondialisation de l'économie capitaliste s'accélérait. Entre 1850 et 1913, le commerce international a été multiplié par 10. On importait déjà en Europe occidentale du blé de Russie, du coton d'Amérique, de l'agneau de Nouvelle-Zélande. Vers 1870, la Grande-Bretagne importait 60% de sa nourriture, tandis que les États-Unis exportaient 100 millions de tonnes de blé. Dans de nombreuses régions du monde, on faisait appel aux main-d'œuvre indienne et chinoise, moins chère et abondante, pour la construction des chemins de fer américains ou kényans, dans les plantations sucrières des Antilles ou de l'océan Indien, dans les mines du Transvaal en Afrique du Sud. Entre 1848 et 1875, plus de 9 millions d'Européens ont émigré vers l'Amérique. Outre les hommes et les marchandises, la circulation des capitaux explosa au tournant des 19e et 20e siècles. Un nombre restreint de firmes, dans la sidérurgie, l'électricité ou encore le pétrole, se partagèrent le monde pour construire des chemins de fer ou des centrales électriques, des puits de pétrole ou des oléoducs. Elles s'appuyaient sur quelques grandes banques qui leur fournissaient les capitaux et contrôlaient leurs conseils d'administration. Le capital bancaire et le capital industriel avaient fusionné pour donner naissance, dès cette époque, à une oligarchie financière. Si la majorité des capitaux se dirigeaient vers les colonies, surtout britanniques, les banques prêtaient déjà, avec des taux d'usuriers, aux États en développement de l'époque, comme la Russie, la Turquie ou l'Argentine. Ces prêts pour construire des lignes de train ou d'autres infrastructures étaient conditionnés à l'achat de matériel aux pays prêteurs. Autant dire que la mondialisation de l'économie, y compris dans ses aspects financiers, n'est pas un phénomène nouveau. Elle est même consubstantielle au capitalisme. Alors, ce processus d'accumulation initiale du capital s'est réalisé sur l'exploitation féroce de millions de paysans chassés de leurs terres, d'Amérindiens exterminés par les maladies ou les armes, d'esclaves africains enchaînés dans les plantations américaines, d'artisans ruinés en Europe, en Inde ou ailleurs, de prolétaires, hommes, femmes et enfants, contraints par la faim à vendre leur force de travail dans les bagnes industrielles. Ce que Marx résuma en écrivant « Le capital est venu au monde en suant le sang et la boue par tous les pores de sa peau ». Par la suite, l'économie capitaliste a supplanté les économies naturelles ou la petite production paysanne partout sur la planète, en envoyant des aventuriers et des soldats, suivis des marchands et des prêtres, avides de pillage, bornés, hypocrites et brutaux. Ces civilisateurs ont anéanti d'anciennes civilisations, détruit des valeurs culturelles dont dépendait le sort de millions d'hommes, répandu la faim et la mortalité, battu, vendu, torturé des millions d'êtres humains. Tout en dénonçant cette barbarie, Marx, Engels et leurs successeurs ne se sont pas apitoyés sur le passé. Ils n'ont pas cherché à faire tourner la roue de l'histoire à l'envers pour revenir au féodalisme et aux particularismes locaux. Derrière les formes nouvelles d'oppression engendrées par le capitalisme, derrière les multiples contradictions et les crises qui rythmaient déjà cette économie de marché, ils ont vu la possibilité de mettre en œuvre les machines et les usines développées par le capitalisme naissant, de façon à satisfaire les besoins de tous. Pour eux, c'était les bases posées par la révolution industrielle, sur ces bases posées par la révolution industrielle, qu'une société communiste pouvait être bâtie. Le changement fondamental de la société ne pouvait résulter à leur époque que de l'accroissement de la productivité, dont la concentration et la mondialisation étaient des facteurs essentiels. Et pour cela, ils comptaient sur une force sociale nouvelle, produit du développement du capitalisme lui-même, le prolétariat. Ces ouvriers anglais ou irlandais, contraints de vendre leur force de travail 16 à 18 heures par jour dans des bagnes industrielles immondes, étaient les nouveaux esclaves salariés. Pour les militants socialistes, les prolétaires n'étaient pas seulement des opprimés, contraints de vendre leur force de travail en se pliant à la loi de l'offre et de la demande. Ils représentaient une force sociale potentiellement révolutionnaire que tout opposait à la bourgeoisie, qui n'avait rien à gagner au maintien de la propriété des moyens de production et qui se renforçait au fur et à mesure que le capitalisme s'étendait sur la planète. Pour reprendre les mots du manifeste, la bourgeoisie avait produit ses propres fossoyeurs. Les perspectives que les premiers socialistes proposaient à ces fossoyeurs du capitalisme étaient de s'unir entre eux, par-delà les frontières. Les prolétaires n'ont pas de patrie, disaient les militants de l'Association internationale des travailleurs, fondée en 1864, une organisation qui cherchait justement à lutter contre l'utilisation par la bourgeoisie des travailleurs d'un pays contre ceux d'un autre. Quelques décennies plus tard, Rosa Luxembourg résumait ainsi le premier siècle d'expansion de l'industrie capitaliste. Je la cite longuement. « Depuis que l'industrie moderne a fait son apparition en Angleterre, l'économie mondiale capitaliste s'est vraiment élevée sur les souffrances et les convulsions de l'humanité entière. Par la vapeur et l'électricité, par le feu et l'épée, elle a pénétré dans les contrées les plus reculées. Elle a fait tomber toutes les murailles de Chine. Et au travers des crises mondiales et des catastrophes collectives périodiques, elle a créé la solidarité économique de l'humanité prolétarienne actuelle. Le prolétaire italien, qui, chassé par le capitalisme de sa patrie, émigre en Argentine ou au Canada, y trouve un nouveau joug capitaliste tout près, importé des États-Unis ou d'Angleterre. Et le prolétaire allemand, qui reste chez lui, dépend pour le meilleur et pour le pire du développement de la production et du commerce dans le monde entier. Trouvera-t-il ou non du travail? Son salaire suffira-t-il pour rassasier femmes et enfants? Sera-t-il condamné plusieurs jours par semaine à des loisirs forcés ou à l'enfer du travail supplémentaire jour et nuit? C'est une oscillation continuelle, selon la récolte de coton aux États-Unis, selon la moisson de blé en Russie, selon la découverte de nouvelles mines d'or ou de diamants en Afrique, selon les troubles révolutionnaires au Brésil, les conflits douaniers, les troubles diplomatiques et les guerres sur les 5 continents. Si l'on remplace le prolétaire italien par le travailleur détaché polonais, la récolte du coton par le cours du pétrole, la moisson du blé en Russie par la demande d'acier chinoise, ces lignes écrites il y a plus d'un siècle décrivent parfaitement les aléas du marché mondial et leurs répercussions sur la vie des travailleurs aujourd'hui en France ou en Allemagne. Mais Rosa Luxembourg n'en tirait pas comme conclusion qu'il fallait rompre avec la mondialisation et refermer les frontières pour protéger le marché national. Elle soulignait un aspect fondamental du prolétariat. Tous ses membres sont reliés par les 1000 aléas d'un marché capitaliste aveugle et anarchique. Ils forment une seule et même classe à l'échelle de la planète. Le mouvement ouvrier rejetait le protectionnisme par internationalisme, mais aussi parce qu'il augmentait le coût de la vie pour les ouvriers. La Fédération du textile de la CGT débattit par exemple en 1905 des tarifs douaniers. Elle décida que le syndicalisme devait rester neutre sur cette question, car le seul véritable terrain de lutte est celui de la lutte des classes. Elle ajoutait « Le protectionnisme, c'est le nationalisme, il mène à la guerre et à la misère pour tous ». Les militants ouvriers s'opposaient vigoureusement aux restrictions à l'immigration. Ainsi, le socialiste Braque écrivait-il en juillet 1907 dans l'Humanité « C'est un danger de considérer la classe ouvrière d'un pays comme ayant un privilège. C'est un danger de fermer, par exemple, l'entrée des syndicats aux immigrants, de leur interdire l'accès à certaines professions. » La perspective des militants révolutionnaires de cette époque n'était ni de proposer une bonne politique industrielle à la bourgeoisie, ni de s'opposer à ce qu'elle investisse des capitaux à l'étranger. C'était de la combattre. C'était de permettre au prolétariat, à l'échelle nationale puis à l'échelle internationale, de s'unir et de s'organiser politiquement pour contester le pouvoir à la bourgeoisie et prendre le contrôle de la société. Quand la bourgeoisie française, allemande ou britannique investissait dans d'immenses usines neuves à Pétrograd ou dans les puits de pétrole à Bakou, elle permettait la concentration d'un jeune prolétariat. Au bout du compte, ces investissements capitalistes allaient rendre possible l'explosion révolutionnaire de 1905 puis de 1917. Rosa Luxembourg s'élevait explicitement contre le protectionnisme et le souverainisme distillés à l'époque par la bourgeoisie. Elle écrivait « Rien n'est plus frappant aujourd'hui, Rien n'a une importance plus décisive pour la vie politique et sociale actuelle que la contradiction entre ce fondement économique commun, unissant chaque jour plus solidement et plus étroitement tous les peuples, en une grande totalité, et la superstructure politique des États qui cherchent à diviser artificiellement les peuples par les poteaux frontières, les barrières douanières et le militarisme, en autant de fractions étrangères et hostiles les unes aux autres. Alors c'est en effet l'une des contradictions de la bourgeoisie. D'un côté, elle a réalisé à un haut degré l'interdépendance universelle des nations. Elle a intégré chaque village de la planète au vaste marché mondial. Et de l'autre, elle s'est formée dans le cadre d'un marché national en s'appuyant sur la force d'un État national. La formation des nations a incontestablement représenté un progrès historique, dans la mesure où ces nations s'opposaient au morcellement et au particularisme féodal, dans la mesure où elles contribuaient au développement des forces productives. La lutte pour la souveraineté de la nation fut l'un des combats de la classe bourgeoise ascendante contre les privilèges de la noblesse et en fait contre la souveraineté exclusive des rois. Si les marchands et les armateurs britanniques ont pu dominer les océans dès le XVIIIe siècle, contrôler le commerce mondial et implanter partout des colonies, c'est parce que, au moins depuis la Révolution anglaise de 1640, ils pouvaient compter sur l'État britannique. Celui-ci a pratiqué une politique douanière favorable au négoce, favorisée par la législation, le développement d'un marché intérieur unifié. Et puis il a surtout bâti et entretenu, armé, une marine puissante, capable de protéger les intérêts des commerçants britanniques et de leur ouvrir les marchés fermés. Cette lutte de la bourgeoisie pour prendre le contrôle de l'État, pour l'unité et la souveraineté nationale, n'était pas terminée quand le prolétariat apparut et commença à défendre ses propres intérêts de classe. Marx et Engels ne restèrent pas neutres dans les combats politiques ou les guerres qui opposaient la bourgeoisie industrielle montante et les vieilles classes dominantes. Ils soutinrent tout ce qui accélérait le développement des forces productives et réduisait le morcellement territorial. Ils étaient par exemple favorables à l'unité allemande, comme ils ont été favorables à la victoire de la bourgeoisie nord-américaine dans la guerre de sécession. Mais en même temps, ces nations unifiées, leur appareil d'État, leur représentation nationale, étaient contrôlées par la bourgeoisie. La politique menée par les gouvernements, les lois votées par le Parlement, reflétaient l'évolution des rapports de force entre les différentes classes dominantes. En France, il a fallu les immenses bouleversements de la Révolution française, stabilisée par Napoléon Bonaparte, pour que la bourgeoisie dispose d'un appareil d'État à sa main. Napoléon créa ou consolida une multitude d'institutions et d'appareils, les préfets, l'inspection des finances, les contrôleurs des impôts, les grands corps d'ingénieurs, la Banque de France, tous au service de la bourgeoisie. À la chute de l'Empire, l'armée, la police, la justice étaient devenus des instruments à son service. Ces appareils lui permirent de conquérir des colonies et des marchés, de soumettre des concurrents étrangers, de garantir sa propriété sur les moyens de production, de disposer d'une myriade de commandes publiques et de réprimer les révoltes sociales. Alors il y eut des luttes entre les différentes fractions des classes possédantes pour le contrôle de cet appareil d'État. Dans cette rivalité, la bourgeoisie ne cessa jamais de présenter ses intérêts propres comme ceux de toute la nation. Au nom de la souveraineté populaire, la bourgeoisie républicaine envoya les prolétaires sur les barricades en juillet 1830, puis en février 1848, et leur confisqua le pouvoir. 4 mois plus tard, en juin 1848, la garde et l'armée nationale mitraillaient les ouvriers parisiens. L'un des premiers combats politiques des ouvriers fut de distinguer leurs intérêts de ceux de la bourgeoisie, même quand elle était encore progressiste. Le mouvement ouvrier a appris à ses dépens que les mots « peuple » et « nation » camouflaient des antagonismes de classe. À l'exception de la Commune de Paris, toutes les révolutions politiques du XIXe siècle, dirigées par telle ou telle fraction de la bourgeoisie, perfectionnèrent cette machine d'État sans jamais la briser. Les régimes se succédèrent. Les républiques remplacèrent les monarchies ou les empires. les républiques changèrent de numéro ou de constitution. Mais la grande bourgeoisie, financière ou industrielle, garda toujours le contrôle de l'appareil d'État. Tous ces régimes restaient au service des Devandel, des Perrier ou des Peugeot. La Banque de France, dont les souverainistes déplorent aujourd'hui la disparition, eh bien, elle fut créée par Bonaparte pour réguler et garantir le franc. Elle fut administrée jusqu'en 1936 par un représentant des 200 premiers actionnaires, ce qui fit naître l'expression des 200 familles, parmi lesquelles les Sellières, l'ancêtre de l'ancien dirigeant du MEDEF. Autant dire que la souveraineté nationale a perdu depuis longtemps tout caractère progressiste. La souveraineté nationale, c'est le contrôle de la nation par la grande bourgeoisie. C'est la souveraineté des capitalistes sur l'appareil d'État. Il n'y a pas une nation de gauche et une nation de droite, comme certains souverainistes le prétendent aujourd'hui, mais un seul État bourgeois qui échappe totalement au contrôle des classes populaires, même quand elles exercent leur droit de vote. Au fur et à mesure que le capital bancaire et le capital industriel fusionnaient et se concentraient, au fur et à mesure que d'immenses groupes hégémoniques dans leurs secteurs respectifs se formaient et se partageaient le marché mondial, les États nationaux devenaient leurs instruments pour conquérir espace vital et nouvelles parts de marché. La domination de quatre pays, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et les États-Unis, sur l'économie mondiale à la fin du XIXe siècle, reposaient sur la puissance de leurs États. La longue avance technologique britannique ne suffisait plus à lui garantir marchés et sources de matières premières. La concurrence entre ces groupements de capitalistes rendait vitale l'existence d'un État fort, doté d'une diplomatie, d'une marine et d'une armée, pour imposer les intérêts de chacun dans l'arène économique mondialisée. La puissance économique était directement liée à la puissance politique. Les gouvernements des États-Unis protégeaient, pour le compte de leurs industriels, leur immense marché intérieur en pratiquant le protectionnisme. Et ils intervenaient militairement de Cuba au Mexique pour garantir l'Amérique aux Américains. Les États européens se livraient à une course armée pour se tailler des empires coloniaux ou imposer leurs capitaux et leurs marchandises aux États semi-colonisés. La bourgeoisie allemande, ayant tardé à disposer d'un État puissant et unifié, n'a pas pu se tailler un empire colonial assez vaste. Elle étouffait dans un hinterland trop étroit pour lui permettre d'écouler marchandises et capitaux, ou pour accéder aux matières premières. Elle n'avait d'autre choix que de remettre en cause le partage du monde établi par ses concurrentes. Contrairement à ce que défendaient les réformistes de l'époque, il ne s'agissait pas d'une orientation politique, d'un choix fait par des politiciens bourgeois va-t-en-guerre. Il s'agissait d'une évolution profonde du capitalisme, ce que Lénine appela l'impérialisme. Cette rivalité entre les trois puissances impérialistes européennes, défendant chacune les intérêts de leurs capitalistes, conduisit directement à la barbarie de la Première Guerre mondiale. Comme l'écrivait Trotsky en octobre 1914, au cœur de la guerre actuelle, il y a le soulèvement des forces productives générées par le capitalisme contre leur exploitation dans le cadre de l'État national. À cette contradiction entre le caractère international de l'économie et la base nationale du développement de la bourgeoisie s'ajoutait une contradiction encore plus fondamentale. C'est la contradiction entre la propriété privée des moyens de production et le caractère social, c'est-à-dire collectif, de leur mise en œuvre. Avant même la fin du XIXe siècle, le développement du capitalisme avait donné naissance à un nombre réduit de firmes géantes. On ne parlait pas encore de multinationales, mais de trusts, de cartels ou de monopoles. Beaucoup de ces trusts dominent toujours leur secteur, à l'instar de General Electric, Siemens, Bayer, et bien d'autres qui ont simplement changé de nom, comme la Standard Oil. Ces groupes se sont développés par-dessus les frontières. Par bien des aspects, ils ont rationalisé et socialisé des pans entiers de la production à l'échelle de la planète. Mais ils l'ont fait dans le cadre de la propriété privée des moyens de production. pour combler les intérêts immédiats de leurs actionnaires, en conservant et en entretenant toutes les divisions de la société. S'ils ont établi des filiales dans des dizaines de pays, s'ils ont absorbé des concurrents, ils n'ont aboli ni les frontières, ni le morcellement national, ni même la concurrence et les gâchis qui l'accompagnent. Énumérant en 1916, dans sa brochure « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », les caractéristiques de ces entreprises géantes qui, je cite Lénine, « organisent méthodiquement, en tenant un compte exact d'une foule de renseignements, l'acheminement des deux tiers ou des trois quarts des matières premières, et dont un centre unique à la haute main sur toutes les phases successives de la production de toute une variété de produits », Lénine concluait, « quand la répartition de ces produits se fait d'après un plan unique parmi des dizaines et des centaines de millions de consommateurs, alors il devient évident que nous sommes en présence d'une socialisation de la production. » Ainsi, à l'aube du XXe siècle, le niveau atteint par les forces productives à l'échelle mondiale exigeait d'organiser la production et la distribution des richesses de façon socialisée, de façon rationnelle, de façon planifiée. Ce qui était encore une anticipation du temps de Marx était devenu un fait. C'est pour cela que Lénine parlait du stade suprême du capitalisme. Mais la socialisation complète de l'économie ne pouvait se faire qu'en expropriant la bourgeoisie, c'est-à-dire en lui enlevant la propriété sur les usines, sur les moyens de production pour les mettre en commun. Et pour cela, il fallait lui enlever le pouvoir politique, c'est-à-dire qu'il fallait renverser les appareils d'État qui garantissent et défendent cette propriété. Autrement dit, il fallait une révolution sociale. Pour Lénine, comme pour Marx et Engels avant lui, la seule force sociale capable de réaliser cela était la classe ouvrière. Comme l'écrivit Rosa Luxembourg en pleine guerre mondiale, il n'y avait que deux voies, soit le passage au socialisme, soit la plongée dans la barbarie. La guerre impérialiste provoqua une formidable vague révolutionnaire en Europe, une vague qui ébranla le monde et faillit emporter le vieil ordre bourgeois, ouvrant la voie à une réorganisation socialiste de l'économie. Le prolétariat, entraînant la paysannerie et les opprimés de l'ancien empire tsariste, réussit à prendre puis à conserver le pouvoir en Russie. Mais en Allemagne, en Europe centrale, en Chine, où pourtant des révolutions ouvrières éclatèrent dans les années 1920, rendant plausibles, concrètes les perspectives communistes, les révolutions échouèrent. Faute d'une direction politique éprouvée, trahie par les dirigeants socialistes puis par la bureaucratie stalinienne naissante, le prolétariat de ces pays ne parvint pas à renverser la bourgeoisie. L'échec de cette vague révolutionnaire, engendrée par la Première Guerre mondiale, permit à la bourgeoisie de conserver le pouvoir, prolongeant ainsi la domination de l'impérialisme sur la planète. Pour toute une nouvelle période historique, faute du passage au socialisme, c'était la barbarie qui prenait le dessus. L'humanité allait chèrement payer ses échecs et la trahison des partis socialistes. Le morcellement national de l'économie a été aggravé par la Première Guerre mondiale. L'Europe, redécoupée à Versailles par les vainqueurs, était encore plus morcelée qu'en 1914. L'appareil productif européen était usé, les monnaies dévaluées, les États endettés et les classes populaires appauvries. Ces contradictions provoquèrent une nouvelle crise mondiale de l'économie déclenchée par le krach de 1929. Cette crise plongea des millions de travailleurs dans une misère biologique et eut de multiples conséquences politiques. Elle exacerba le protectionnisme de chaque puissance impérialiste, l'interventionnisme des États sous forme de grands travaux ou de commandes militaires, le repli sur des empires coloniaux surexploités. Les mêmes causes provoquant les mêmes effets, les puissances impérialistes privées d'espace vital, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, allait se mettre en ordre de marche avec les méthodes du nazisme, du fascisme, du militarisme pour contester l'ancien partage du monde favorable à leurs concurrents. Cela déboucha sur la Deuxième Guerre mondiale avec des destructions matérielles incommensurables, la mort de dizaines de millions d'hommes et de femmes et des souffrances inouïes. Durant cette période, chaque État continua à défendre les intérêts de ses propres capitalistes en s'adaptant aux cadres et aux conditions nouvelles imposées par la guerre. Il est significatif qu'au moment où la France perdait sa souveraineté nationale, son territoire étant occupé par les armées allemandes et son économie subordonnée à l'industrie de guerre nazie, l'appareil d'État français, lui, resta intact. Son rôle était désormais de faciliter les affaires des capitalistes français auprès des autorités allemandes, de permettre à Lafarge de vendre son ciment pour le mur de l'Atlantique, à Louis Renault ou Marius Berliet de vendre leurs camions. Il était aussi de préserver l'empire colonial face à l'appétit allemand, mais plus encore à l'appétit de la Grande-Bretagne. Comme le déclarait le conseil d'administration de Lafarge, après les jours tragiques de 1940 qui virent la France terrassée et vaincue, la vie continue. Et notre devoir à tous est de travailler. Si nous savons nous grouper autour du maréchal et nous consacrer à notre tâche, l'avenir nous appartient. Comme quoi les sentiments nationaux de la bourgeoisie ont toujours été ceux de ses coffres forts. Et quand, quelque temps plus tard, les rapports de force sur les champs de bataille avaient tourné à l'avantage du camp anglo-américain, allié à l'Union soviétique de Staline, cette même bourgeoisie s'est mise à soutenir la résistance gaulliste. Pour ne pas être traité en vaincu et perdre à la fin de la guerre de juteux contrats, les patrons français avaient besoin que leur État soit reconnu par les alliés. Et du coup, au nom de la restauration de la souveraineté nationale, les classes populaires devaient oublier leurs souffrances et l'enrichissement éhonté du patronat sous l'occupation. Toutes les classes devaient s'unir derrière De Gaulle et le Conseil national de la Résistance. Restaurer la souveraineté nationale, c'était de nouveau préserver l'appareil d'État. Après la barbarie de la guerre, l'hécatombe humaine, les milliers de villes méthodiquement détruites, les principales infrastructures anéanties, l'économie ne pouvait pas redémarrer par la vertu de la libre entreprise. Dans ce contexte de pénurie généralisée, où les monnaies, à l'exception du dollar, avaient perdu toute valeur, partout les États prirent en charge la reconstruction des forces productives annihilées par la guerre. Ils intervinrent systématiquement pour réguler la circulation des marchandises et des capitaux, circulation soumise à des autorisations gouvernementales et à des droits de douane élevés. Alors, à cause de cet interventionnisme étatique, les économistes parle de l'État-providence. De leur côté, les altermondialistes, les souverainistes, de nombreux syndicalistes, nourris par la version de l'histoire forgée par le PCF, et puis effarés par les attaques actuelles portées contre les droits et le niveau de vie des travailleurs, eh bien, ils présentent cette période comme un véritable âge d'or du capitalisme. Ils ont construit un véritable mythe selon lequel il y aurait eu tout à l'heure, sous l'égide de l'État régulateur, un compromis entre les capitalistes et les travailleurs. Compromis ouvrant la voie à une période sans chômage, avec des droits sociaux élevés et une hausse continue des salaires réels. C'est la fameuse période des Trente Glorieuses qu'ils opposent à la période actuelle de dérégulation et de globalisation financière. Mais si l'État fut providentiel dans les années d'après-guerre, c'est d'abord pour la bourgeoisie. En France, mais aussi en Grande-Bretagne et dans bien d'autres pays, l'État nationalisa des industries entières, les mines de charbon, l'électricité, le gaz ou le transport ferroviaire ou aérien. Non seulement les anciens propriétaires ont été indemnisés, grassement, mais avec ces nationalisations, l'État réalisa lui-même les lourds investissements indispensables que les capitalistes ne voulaient ou ne pouvaient pas faire. En nationalisant les banques, y compris la Banque de France, ou la Banque d'Angleterre à la même date, les États permirent à la bourgeoisie de trouver des financements pour relancer ses affaires. Dans les années suivantes, par le biais des commandes publiques, pour construire des barrages, des autoroutes, des réseaux téléphoniques ou des centrales nucléaires, ce sont les Wendel, Schlumberger ou autres Bouygues qui se sont enrichis. Quant à l'autre volet de l'État-providence, la mise en place dans plusieurs pays de systèmes collectifs d'assurance maladie ou de retraite, garantie par l'État, elles n'étaient pas non plus des mesures socialistes. Alors évidemment, aujourd'hui que ces systèmes collectifs sont méthodiquement démantelés pour offrir un débouché aux assurances privées, aujourd'hui que l'accès aux soins est de plus en plus restreint pour la population, il faut bien sûr défendre tout ce qu'il y a de positif pour les travailleurs dans les systèmes de retraite ou d'assurance maladie. N'empêche que, quoi qu'en dise aujourd'hui le PCF, la mise en place de ces systèmes collectifs a permis au patronat de l'époque de limiter les salaires versés aux travailleurs, dont une partie était ainsi mutualisée et différée dans le temps. D'un point de vue politique, ils ont été la contrepartie de l'Union nationale que les dirigeants de la bourgeoisie ont impulsée dans de nombreux pays pour remettre les appareils d'État en ordre de marche. Pour éviter la vague révolutionnaire qui les hantait depuis 1917, pour faire accepter aux travailleurs de suer le burnou pour reconstruire le pays, de gagner la bataille du charbon en leur promettant pour l'avenir des jours heureux. Il est significatif que cette politique fut conduite dans toute l'Europe, avec des gouvernements aux couleurs variées. Il faut rappeler qu'en France, au moment même où le ministre communiste Ambroise Croizat mettait en place la sécurité sociale, le dirigeant du PCF, Maurice Thorez, ministre d'État du général de Gaulle, répétait que la grève est l'arme des trusts et mettait tout son poids pour restaurer une seule police, une seule armée, un seul État. Le même gouvernement, le même État, n'allait pas tarder à tirer sur les mineurs en grève et à démarrer les sales guerres coloniales contre les Indochinois, les Malgaches, les Camerounais ou les Algériens. L'État que le PCF avait contribué à rétablir, c'était l'appareil répressif au service de la bourgeoisie française. Pour les travailleurs, ces années furent d'abord des années de privation, de pénurie de logement, des semaines de travail de 6 jours. Si le niveau de vie augmenta lentement, c'est grâce au plein emploi et à la baisse massive du prix des équipements électroménagers ou automobiles. Des années 1950 aux années 1970, l'absence du chômage et la relative pénurie de main-d'œuvre mettaient les travailleurs en situation d'obtenir, individuellement ou collectivement, des augmentations de salaire. Elles leur permirent d'obtenir des emplois stables avec des contrats de travail durables et d'arracher des lois un peu plus protectrices. Mais ces progrès dans la condition ouvrière ne résultaient ni d'un compromis ni d'un choix idéologique des représentants politiques de la bourgeoisie. Ils résultaient de la loi de l'offre et de la demande qui vaut pour toutes les marchandises, y compris la force de travail. Ils résultaient d'une amélioration temporaire du rapport de force en faveur des travailleurs face à la bourgeoisie. Et cette période ne fut finalement qu'une courte parenthèse à l'échelle d'à peine une génération, avant le retour inéluctable de la crise au milieu des années 1970, quand le marché solvable commença à se contracter et que les industriels virent baisser leur taux de profit. La crise prit diverses formes successives avant de déboucher sur une véritable récession économique avec le retour du chômage de masse. Dans les décennies suivantes, pour rétablir puis augmenter leur taux de profit et augmenter sans cesse la productivité, les capitalistes allaient licencier, aggraver l'exploitation, baisser la masse salariale, généraliser la précarité, au point qu'aujourd'hui, celle-ci est en passe de redevenir la règle et le CDI l'exception. Dans cette guerre de classe contre les travailleurs, la bourgeoisie a tout naturellement trouvé le soutien zélé de tous les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir. Et les économistes ont théorisé, après coup, la nécessité de ces attaques au nom du libéralisme. En même temps qu'ils menaient leur offensive contre les travailleurs pour rétablir puis augmenter leur taux de profit, les capitalistes réduisirent considérablement leurs investissements dans la production. Ils cherchèrent donc de nouveaux débouchés pour leurs capitaux. Ils commencèrent par prêter aux pays sous-développés, avec des taux d'usure, les poussant dans les filets d'une dette sans fin que les classes populaires continuent de payer de multiples façons. Ils se lancèrent dans la spéculation financière ou boursière, qui prit des formes multiples et variées, au gré des bulles, des crises bancaires, des krachs boursiers. Pour répondre aux exigences de leurs capitalistes, les États allaient abattre une à une les réglementations financières instaurées après la grande crise de 1929. En une décennie, à partir du milieu des années 1980, la plupart des cloisonnements en vigueur entre les différents secteurs financiers, celui des monnaies, des obligations, des actions, les marchés à terme sur les matières premières, les assurances, etc., toutes ces barrières ont été supprimées pour créer un marché financier mondial quasiment unique. Aujourd'hui, les différentes places financières sont interconnectées. Et en jouant sur les décalages horaires, on peut acheter et vendre 24 heures sur 24. En 2012, les opérations financières internationales étaient 100 fois plus nombreuses que celles liées au commerce des biens et des services. La frontière entre le capital industriel et le capital bancaire, ténue depuis toujours, est désormais totalement abolie. Les grands groupes industriels partagent leur activité entre la finance et l'industrie. Ils disposent de leurs propres fonds spéculatifs, parfois de leurs banques. Un investisseur qui cherche le meilleur rendement peut passer d'une action en euros à une obligation en dollars, revendre ses actions de Bouygues pour acheter de la dette grecque ou une option d'achat sur une cargaison de pétrole ou de blé, option qu'il aura revendue avant même que le cargo n'ait atteint son port de destination, sans parler des multiples produits dérivés, comme les fameux subprimes déclencheurs de la crise de 2008. La masse astronomique de capitaux disponibles sur les divers marchés financiers de la planète, du fait de la politique de création monétaire débridée pratiquée par toutes les banques centrales, amplifie tous les mouvements spéculatifs. Les banquiers eux-mêmes finissent par s'en effrayer, comme Patrick Artus, chef économiste chez Natixis, qui écrit dans un livre intitulé « La folie des banques centrales » « Plus la liquidité mondiale est abondante, plus ces mouvements sont violents, puisque la taille des capitaux qui peuvent migrer d'une classe d'actifs à d'autres est elle aussi de plus en plus considérable. » En gros, quand les détenteurs de capitaux décident de retirer leurs avoirs d'entreprises chinoises ou brésiliennes dont les taux de profit sont en baisse, ces centaines de milliards de dollars se déplacent en quelques heures, provoquant la fermeture d'usines, l'effondrement des monnaies, le chômage et l'inflation pour la population. Toute cette politique de déréglementation lancée au début des années 1980, résultat d'un consensus à l'échelle internationale entre les États et les capitalistes. Ce n'est pas par idéologie que les vautours du FMI et de la Banque mondiale imposèrent aux populations des pays surendettés, des privatisations massives, la fin des subventions sur les produits de première nécessité ou l'ouverture de tous les services publics aux firmes privées occidentales. Et or, le FMI et la Banque mondiale, ces deux institutions mises en place dans la période d'après-guerre, la fameuse période d'État-providence, devinrent les agents de la privatisation à marche forcée des services publics, les agents de la politique de fin des denrées subventionnées dans les pays surendettés, de la baisse des impôts. Alors, tout ça, ce n'était pas la victoire idéologique des Chicago Boys, les économistes ultralibéraux de l'école de Chicago, mais c'était une exigence impérative du capitalisme en crise. Finalement, une exigence du même type que celle qui avait poussé, entre 1870 et 1900, les pays capitalistes à la course aux colonies et à la politique impérialiste. Et à l'époque aussi, il y avait eu des intellectuels pour théoriser les bienfaits civilisateurs de la colonisation, comme il y en a aujourd'hui pour théoriser les vertus du libéralisme. Mais les racines de l'impérialisme étaient dans les lois du développement économique. Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret Thatcher en Grande-Bretagne sont présentés par les altermondialistes comme les artisans de cette politique néolibérale. Mais en France, au même moment, c'était le socialiste, entre guillemets, Mitterrand, qui mettait les mêmes réformes en œuvre, pendant que le socialiste Jacques Delors présidait la Commission européenne et que le français Michel Candossu, nommé par Mitterrand, présidait le FMI. Et tous leurs successeurs, d'Obama à Sarkozy et Hollande, n'ont cessé de satisfaire les exigences de la finance. Ce n'est ni par lâcheté ni par idéologie, mais parce que le capitalisme atteint de sénilité ne peut pas plus se passer de la finance qu'un drogué de sa came.